Geoffrey Laurent, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
Et bonjour, chers auditeurs et chères auditrices.
C'est
bonjour
une voix,
Olivier, et merci de nous accueillir.
C'est une voix qui nous est familière, Geoffrey Laurent, parce que ça a été le Tour de France des patronages avec vous tous les mois à 18h50. Dans ce Tour de France des patronages, Geoffrey Laurent, vous étiez avec votre famille, mais pas non plus qu'avec votre famille, avec les reliques de Don Bosco. Et nous vous recevons là pour un livre, moi, Don Bosco. Alors ce Don Bosco, il sera question pendant cette demi-heure d'émission. Tout d'abord, eh bien, ce Tour de France des patronages avec Saint Jean Bosco, ses reliques, que s'est-il passé, Geoffrey Laurent ?
Alors c'est vrai, nous avons eu la chance de pouvoir vous parler de ça pendant une année, tout au long de l'année dernière. Et nous avons terminé notre Tour de France fin juin, début juillet. Et nous avons eu la chance, alors au début je disais que nous avions la chance d'être accompagnés par les reliques de Don Bosco, par Don Bosco lui-même. Et on a compris très rapidement qu'on était un petit peu les chauffeurs de Don Bosco tout au long de ce Tour de France, des patronages. Notre mission, c'était d'aller à la rencontre de tous les diocèses et de toutes les paroisses désireuses d'entendre parler du renouveau des patronages en France. Voilà, et à la fin de ce Tour de France, on a rencontré, peut-être suscité, un peu plus de 86 projets, je crois, de patronages qui aujourd'hui sont accompagnés par une belle équipe au sein d'Esprit de patronage qui les accompagne pour réussir à ouvrir leur patronage et à accompagner de nombreux jeunes et de nombreuses familles. Et donc, tout au long de ce Tour de France, on avait Don Bosco avec nous, et à de nombreuses reprises, peut-être 20 à 30 fois chaque mois, on nous demandait de témoigner sur ce grand saint. Voilà, ce qu'il avait fait, quels étaient ses enseignements pour les jeunes, pour les familles de notre temps. Et donc, tout au long de cette année, on a fait plein de recherches avec Karine, mon épouse, pour essayer à chaque fois de trouver des petites anecdotes, des petits enseignements de Don Bosco. Et à la fin de notre Tour de France, on s'est retrouvés dans une jolie paroisse, dans le diocèse de Nantes, et on y a rencontré un éditeur, donc la maison d'édition Yeshua Édition, et à la fin de cette présentation sur la vie de ce grand saint, il est venu me voir, il me dit « Geoffrey, est-ce que ça te dirait de nous écrire d'écrire un livre sur Don Bosco que tu as l'air de beaucoup aimer ?» Alors je vous avoue que je n'avais jamais pris la plume avant pour écrire un livre, mais je me suis dit bah, « pour Don Bosco, avec toutes les belles choses qu'il nous a donné de vivre cette année, je suis prêt à relever le défi. » Voilà, et donc j'ai écrit le livre assez rapidement, parce que je l'ai écrit, donc c'était la demande de cet éditeur, je l'ai écrit comme si Don Bosco s'adressait à nous.
Oui, c'est un livre à la première personne et un livre qui donne une large part à l'enfance de Don Bosco dans cette campagne italienne.
Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de se dire, tiens, si on regardait avec Don Bosco toutes les personnes, toutes les rencontres qu'il a faite tout au long de son enfance, de son adolescence, de ses études au séminaire, qui l'ont fait devenir un grand homme, un grand prêtre. Et tout au long de ce livre, en fait, il rend grâce pour toutes ces personnes que le Seigneur lui a donné de rencontrer et toutes les petites choses que ces personnes lui ont enseignées. Alors, ce sont des prêtres, c'est sa maman, c'est son papa, c'est ses amis. Voilà, qu'est-ce qu'ils lui ont transmis, qu'est-ce qu'ils lui ont expliqué pour devenir ce grand saint que l'on connaît aujourd'hui.
Et pour lui donner votre plume, lui prêter votre voix, Geoffrey Laurent, à Saint Jean Bosco, d'où vient cet attachement à cette figure, à ce maître, à ce grand aîné qui vous précède ? Nous rappelons, lors de vos émissions, vous parliez de cette intuition profonde, vécue à Lourdes, où vous vouliez donner votre vie, vous êtes senti à donner votre vie pour les jeunes. Là, vous êtes proche de Saint Jean Bosco. Quand est-ce qu'il est venu croiser précisément votre chemin ? J'imagine bien que ce n'est pas à partir de ce Tour de France des patronages.
Merci de te rappeler de tout ça. Et donc effectivement, cette vocation à la jeunesse, elle date d'il y a très longtemps. Donc j'avais 12 ans Et en fait, si on veut donner sa vie à Dieu, on ne sait jamais par quel bout commencer, quel chemin prendre. Et je me suis toujours dit qu'il fallait se servir de tous ces saints que le Seigneur nous révélait pour essayer de comprendre quel était notre propre chemin de sainteté. Et dans les grands saints de la jeunesse, donc Saint Jean Bosco, c'est le père et maître de la jeunesse et des éducateurs. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a nommé comme ça. Et du coup, ben, forcément, si on veut s'occuper des jeunes, si on veut comprendre notre vocation éducative, c'est important de regarder Don Bosco et de le prendre un petit peu comme modèle. Alors, il y a plusieurs saints que j'aime beaucoup, hein. Les deux principaux saints de la jeunesse que j'aime beaucoup, c'est évidemment Saint Jean Bosco et Saint Philippe Néri. Voilà, ce sont deux grands saints qui nous montrent un petit peu cette vocation à l'amour que nous avons tous, cette vocation au service et cette vocation particulière au service des jeunes et des pauvres.
Deux figures tourbillonnantes, hein. Philippe de Néri, en effet, qui était aussi avec les enfants abandonnés, les enfants blessés, qui les faisait aller en procession, qui leur faisait goûter la piété, l'amour de Dieu, mais de façon agréable, de façon heureuse, souriante. Et pourtant, des enfants dont la vie n'était pas du tout souriante à Rome à cette époque-là. Et Saint Jean Bosco aussi, qui ne manquait pas de bon sens, qui ne manquait pas d'humour, et qui ne manquait pas d'audace et de risque aussi pour tous ses enfants. Ces figures-là sont, en tout cas, pour Saint Jean Bosco, cette figure de Saint Jean Bosco est un salésien. Il se rattache donc à ce grand maître, à ce génie du christianisme qu'est Saint François de Sales, qui disait tout par amour, rien par force. Qu'est-ce qui le détache, Saint Jean Bosco, dans cet effort d'éducation et de sanctification des jeunes?
Alors, pour essayer de comprendre comment il a fait pour découvrir cette force dans la confiance confiée aux jeunes, cette force dans l'amour porté aux jeunes, dans le livre, je retourne jusqu'à à son enfance avec sa maman Marguerite. Et un jour, Don Bosco fait une bêtise. Il joue avec son frère. À la lipa, c'est un petit jeu qui se joue avec un bâton, et sans faire exprès, il fait tomber
La cruche d'huile.
la grande cruche
Eh oui.
d'huile. Et ça, en fait, cet épisode-là, Don Bosco se dit, bon, il va falloir que j'assume ma faute, mon erreur. Et donc, à l'époque, on corrige les enfants avec une baguette, et il se dit, tiens, je vais aller sculpter ma baguette prendre le temps de réfléchir à la faute que j'ai faite, et puis je vais la donner à maman pour qu'elle me corrige. Voilà, grosso modo, c'est ça que fait Don Bosco. Et sa maman, quand elle arrive à la maison, Don Bosco lui tend la baguette et lui explique ce qui s'est passé. Et sa maman prend sa jolie baguette qu'il avait toute sculptée, et elle lui fait un beau sourire, et elle lui dit, elle lui montre qu'elle est fière de voir qu'il est prêt à assumer sa faute. Et sa seule correction, c'est de lui dire, bon ben voilà, tu as compris que tu avais peut-être fait une erreur. C'est vrai qu'une cruche d'huile, ça coûte très cher, mais voilà, la force que tu as eue et le courage que tu as eu dans le fait d'assumer ta faute, ben c'est déjà mon cadeau et j'ai pas besoin de te corriger plus.
Eh bien, Geoffrey
Et en fait,
Laurent,
oui.
je sais pas ce que vous en pensez, mais là, pour ce temps de carême, c'est un beau morceau de l'histoire sainte, là, parce que finalement, Saint Jean Bosco, il est passé par la porte de la justice pour recevoir la miséricorde, en fin de compte. Hein? Oui,
Exactement, c'est tout
la
à
seule
fait ça.
façon de recevoir vraiment la miséricorde, en somme, de passer par la
Et en fait,
justice.
il commence par reconnaître sa
Oui.
faute, il la met entre les mains de sa maman, et la maman, elle a deux solutions, hein. C'est le corriger, comme ça se fait à l'époque, hein. C'est à l'époque, un enfant qui fait une bêtise, on le corrige avec une baguette ou autre chose, et sa maman lui offre un sourire et son amour, et lui dit, bah, c'est chouette que tu reconnaisses ta faute. Alors, c'est pas chouette que tu aies cassé la cruche, évidemment. Et puis, mais par contre, c'est chouette que tu reconnaisses ta faute. Et en fait, ça lui suffit. Et c'est vraiment ce regard qu'on a de la miséricorde de Dieu quand on va se confesser aux portes de ce Tridium Pascal. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et du coup, Don Bosco, quand il grandit, quand il vieillit, quand il devient prêtre, quand il devient ce prêtre éducateur au service des jeunes, il garde cette douceur et cette patience qu'il a reçue de sa maman et de bien d'autres personnes aussi. Hein. Et quand un enfant va fauter, au moment de mourir, il dit « Durant toute ma vie, je n'ai jamais puni un seul enfant. » Et donc, il meurt presque avec ces paroles, avec cette joie de n'avoir pas eu besoin de punir un enfant, comme ça se faisait à l'époque. Et un jour, un de ses enfants, un de ses jeunes qui l'a accompagné, fait un témoignage. Il dit « Vous savez la façon dont Don Bosco avait de nous punir ?» Alors là, on se dit « Mince, peut-être que Don Bosco a vraiment puni des enfants à son époque. » Il dit « c'était de ne pas nous regarder quand il rentrait dans la salle. Et là, on savait que notre cœur était rempli de péchés et qu'il fallait aller se confesser. » Donc, tout ce que voulait Don Bosco, c'est que le cœur des enfants soit toujours prêt à recevoir la miséricorde de Dieu. Et la façon qu'il avait de le signifier aux jeunes, c'était pas de leur parler, c'était pas de leur crier dessus, c'était pas de les taper. C'était de, voilà, ce regard qui ne posait pas suffisait aux jeunes à comprendre qu'il avait une faute sur le cœur, un péché à confesser, et que Don Bosco était prêt à l'accueillir.
Geoffrey Laurent, nous l'avons dit, votre livre « Moi, Don Bosco », publié aux éditions Yeshua, est à la première personne et donne une bonne part à l'enfance de Saint Jean Bosco. Là, vous nous avez parlé de l'histoire de la cruche d'huile, où nous avons pu tirer un enseignement. Quel autre fait marquant il y a dans son enfance qui ont déterminé aussi ses intuitions, cet aspect révolutionnaire par endroits, lorsque vous nous parlez de « dans une époque punitive », eh bien, de prendre le large, d'aller travailler autrement. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans son enfance qui a déterminé le caractère de la sainteté de Saint Jean Bosco ?
Je pense qu'un des éléments les plus forts et le plus beau conseil que nous donne Don Bosco dans ce livre, tout le monde connaît le songe de Don Bosco quand il a 9 ans, quand il rencontre des enfants qui se battent, qui se disputent, qui blasphèment, et Don Bosco ça l'énerve, alors il y va, et puis il veut les corriger avec ses poings. Et là, il y a une voix douce qui lui dit que ce n'est pas avec, avec la violence et les poings qui va en faire ses amis, mais c'est avec la douceur et la patience. Et ce récit, il est raconté de plusieurs façons. Il y a une façon que j'aime beaucoup. C'est un homme lumineux qui arrive et qui lui dit tout ça. Et Don Bosco lui dit « Mais qui êtes-vous ?» Et la réponse de cet homme rempli de lumière, c'est « Je suis le fils de celle que ta maman te demande de prier 3 fois par jour. Je suis le fils de Marie, celle que ta maman te demande de prier 3 fois par jour. » Et en fait, Jésus se présente comme étant le fils de Marie à Saint Jean Bosco, parce que Saint Jean Bosco, dès son plus jeune âge, sa maman lui apprend à prier au moins 3 fois par jour, à se poser au moins 3 fois par jour, et à dire un « Je vous salue Marie », et à le dire avec le cœur. Et c'est comme ça que Jésus se présente à lui. Et je crois que ça, c'est un des beaux trésors aussi que Don Bosco nous laisse et qui font partie de ce grand saint qu'on connaît aujourd'hui, c'est cet attachement à Marie. Voilà, je pense que sur notre radio, je pense que les auditeurs et les auditrices seront d'accord avec Saint Jean Bosco. Voilà, rester proche, rester attaché à Marie tout au long de notre vie, et ne pas hésiter à se poser au moins 3 fois par jour pour la saluer et dire un « Je vous salue Marie ».
Alors Saint Jean Bosco, dans un milieu où il y avait bien des pauvretés et pas toujours des foyers aussi pieux, aussi chrétiens qu'était le sien, il y avait des enfants difficiles. Ce chemin de douceur et ce chemin d'intériorité pour gagner les âmes, pour tout par amour, rien par force, eh bien, comment est-ce qu'il l'a mis en œuvre, Saint Jean Bosco ? Ça a été difficile, une acquisition laborieuse, ou bien il a été dans une grâce signifiée, une facilité comme ça pour conduire toutes ses âmes ?
Après ce songe, Don Bosco se dit « Super, j'ai reçu cet appel à rendre des bêtes féroces, à les rendre de 12 agneaux, et pour y arriver, il faut les raccrocher au Seigneur, il faut les raccrocher à Marie ». Donc, j'ai envie de partir et de parler de Jésus et de parler de Marie à toutes les personnes que je vais rencontrer. Alors, il commence par organiser. Don Bosco, c'est quelqu'un qui travaille, Jean Bosco à l'époque, puisqu'il est encore enfant. Jean Bosco à l'époque, il travaille beaucoup, il aime beaucoup apprendre à lire, à écrire. Il aime apprendre toutes ces choses-là. Et à l'époque, il y a très peu de gens qui savent lire. Et donc, il se dit très bien, si je proposais pendant les durs mois d'hiver des temps de lecture, où je vais lire en fait une lecture à des personnes, à mes camarades, à mes copains. Et juste avant et juste après, on en profitera pour faire une prière et pour amener les âmes à Dieu. Et donc, il se sert de ce talent qu'il a travaillé, de savoir lire, de savoir parler, de savoir être un bel orateur, et il le met au service de ses camarades. Et en fait, ça plaît beaucoup à ses copains. Et après, c'est les adultes des fermes qui viennent le soir pour se mettre au coin du feu et écouter Jean Bosco lire de belles histoires. Et ça commence toujours par un temps de prière, et ça finit toujours par un temps de prière. Et puis les beaux jours arrivent et il se dit, mince, on n'a plus les coins de feu le soir, les gens sont à la ferme jusqu'à tard le soir, quand ils rentrent, ils sont trop fatigués, il faut que je trouve une nouvelle idée. Et donc il se dit, tiens, je vais être un prestidigitateur. C'est souvent comme ça qu'il est représenté sur une corde en train de faire le funambule. Et en fait, il travaille énormément pour pouvoir se payer une place au premier rang, pour voir des professionnels faire tout ça. Et puis, il va apprendre. Et puis, il va s'exercer. Une grande force de travail, Don Bosco. Il va s'exercer. Et puis, après, il va faire des spectacles dans son village. Et là, les gens vont se réunir autour de lui. Et alors, imaginez-vous, au moment où il arrive sur le bouquet final, le moment où il va traverser cette corde suspendue entre deux arbres, il va regarder toutes les personnes autour de lui. Il va dire, ben voilà, je vais faire quelque chose, alors c'est pas facile, et j'ai besoin de votre aide si on priait ensemble avant que je fasse ce dernier acte. Et en fait, Don Bosco se sert de ses talents, de tous ses talents, et à chaque fois, paf, pour nous mener à Jésus, pour nous mener à Marie. Donc, dès son plus jeune âge, vraiment, il a ce désir de ramener les âmes à Dieu, de leur montrer cet amour de Dieu, et il le fait par plusieurs moyens. Et cet amour du jeu, cet amour de cette joie dans l'amusement, il va la garder tout au long de sa vie et tout au long de ce service qu'il a rendu aux jeunes en fondant toutes ses œuvres salésiennes et tous ses oratoires, ses patronages.
Et vous, Geoffrey Laurent, cette œuvre des patronages vous tient à cœur. Vous avez à cœur aussi cette vocation éducative qui brûlait Saint Jean Bosco. Votre livre a comme visée de donner la possibilité de découvrir cette vocation éducative, chrétienne, humaine, profonde et juste. Comment vous faites le raccord avec notre époque qui est morcelée quand même, qui est difficile et nouvelle sous bien des aspects? Comment Jean Bosco encore peut parler à ceux qui ont vocation à éduquer ou à faire grandir?
Alors c'est vrai que l'année dernière, je n'ai fait que parler de patronage et ça reste une grande joie pour moi. Là, pour moi, ce livre, il a vraiment pour vocation à s'adresser à toutes les personnes qui ont une posture éducative. Donc, les premiers éducateurs, ce sont nous, les parents, oui, évidemment. Donc, d'abord, ce livre s'adresse aux parents. Et dans le livre, je fais en sorte que Don Bosco parle aux parents dans une grande partie du livre et aussi aux enfants qui le liraient. L'objectif, c'est que ce livre soit, on puisse le lire quel que soit notre âge. Il n'y a que des belles choses avec Don Bosco. Et en fait, quand il s'adresse aux parents, il leur montre justement qu'il y a des choses qui étaient vraies à son époque et qui le sont encore aujourd'hui. Et donc, par exemple, la première chose, c'est cet amour de la douceur de Don Bosco, qui aujourd'hui est comprise, mais qui pourrait être vu comme quelque chose de laxiste, cet amour de la douceur. Don Bosco, il n'est pas laxiste du tout. Hein. Don Bosco, il sait montrer à ces jeunes, par un simple regard, que leur cœur est rempli de péché. Et donc, nous, en tant que parents, il nous invite à faire attention à ce que nos enfants grandissent pour être des saints à leur tour. C'est vraiment la vocation qu'a portée toute sa vie Don Bosco, c'est faire en sorte que tous les enfants deviennent saints, que tous les enfants rejoignent le Seigneur au ciel. Et je vais donner une petite anecdote. Par exemple, à son époque, un jour, il y a un de ses frères éducateurs qui lui envoie un courrier qui lui dit, voilà, Don Bosco, on a une question, on aimerait bien mettre une bibliothèque dans notre établissement. Et on aimerait bien savoir quels livres choisir et comment les sélectionner. Et Don Bosco lui dit, ben, c'est très simple. Il lui répond par une petite lettre de 6 ou 8 pages. Hein, c'est une très grosse lettre, en fait. Mais je vais vous la résumer en quelques mots. Il dit, vous savez, c'est très simple. S'il y a un mot, une phrase ou une virgule qui peut entacher l'âme d'un enfant, vous prenez le livre et vous le mettez au feu. Parce que si ça peut tacher l'âme d'un enfant, ça fera pareil pour votre âme. Et donc, la première exigence, c'est qu'on ne fait rien lire. À l'époque, les mauvaises idées, les mauvaises pensées passaient par la lecture. Et donc, on ne fait rien lire à un enfant si on ne l'a pas lu avant et qu'on ne s'est pas assuré que ce livre va participer à l'édification de son âme. Et nous, en tant que parents, bah, du coup, dans ce livre, Don Bosco, alors j'avoue, je prends un petit peu la parole sur ce point-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces écrans, tous ces smartphones, tous ces... Eh bien, je dis, ben voilà, faisons pareil avec nos enfants. Ne les laissons pas regarder quelque chose qu'on n'a pas vu, et ne les laissons pas regarder quelque chose qui pourrait entacher leur âme. Et à chaque fois dans sa vie, Don Bosco, on a la chance avec Don Bosco, c'est un saint qui a beaucoup écrit. Et donc, il nous a laissé un trésor immense. Et je pense qu'il faudrait une vie entière pour comprendre tout le trésor qu'il nous a laissé. Mais à chaque fois qu'on découvre quelque chose, il est très simple, il est très précis, et il nous dit simplement les choses. Donc, il y a beaucoup de rigueur pour les éducateurs. Que nous sommes en tant que parents ou en tant qu'accompagnateurs d'enfants. Et en même temps, il y a beaucoup de douceur et d'amour à transmettre à ces jeunes pour qu'ils découvrent l'amour et la miséricorde de Dieu.
Alors, premièrement, vous nous dites cette séparation nécessaire, cette crainte de Dieu, finalement, qui se définit par la haine du péché, on lit dans la Bible, donc cette haine du péché, de tout ce qui peut souiller l'âme ou bien offenser notre Dieu, la séparation, cette pureté, dans un climat aussi qui est différent du nôtre, hein, parce que ces enfants, même s'ils étaient nourris mais pas élevés, ou enfin blessés de bien des manières, ils croyaient quand même à l'enfer, ils avaient quand même peur d'une rétribution, peur d'un jugement. Ils ne vivaient pas comme ça, voyez, au jour le jour, hein, ça change quand même les choses.
Tout à fait. Tout à fait. Après, Don Bosco, bon, il a passé des années à confesser ces jeunes parce que justement, il voulait être sûr que leur âme soit toujours prête à rejoindre notre Seigneur. Un jour, il y a un jeune qui vient le voir et qui lui dit, Don Bosco, vous nous avez dit que notre vocation, c'était la sainteté. C'est chouette, moi j'ai envie de devenir saint, mais comment on fait pour devenir saint? Ça a l'air quand même assez compliqué, cette affaire. Et donc, Don Bosco lui dit, non, 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 tu sais, c'est très, très simple. Il suffit de faire trois choses chaque jour. La première, c'est un temps pour Dieu, un temps pour prier. La deuxième, c'est un temps pour faire notre devoir d'État. Alors pour les enfants, le devoir, premier devoir d'État, c'est de savoir jouer à des jeux qui plaisent à Dieu et de bien écouter ceux qui nous enseignent, ceux qui nous éduquent et de bien apprendre nos leçons, du coup. Et la troisième chose, c'est de prendre chaque jour un temps pour servir. Servir quelqu'un. Voilà, pour rendre un service. Et Don Bosco finit en disant, et tu sais, ces trois choses-là, il faut les faire toujours dans la joie. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, Don Bosco, je crois que ce chemin-là, à chaque fois que je l'ai présenté cette année pendant ce Tour de France des patronages, on avait le sourire sur le visage des enfants. Parce qu'il se rendait compte qu'il n'y avait rien de compliqué. Et puis il finit en nous disant, et puis tu sais, il y a deux trésors, deux cadeaux que le Seigneur nous donne pour réussir à mener tout ça à bien. Le premier, c'est le sacrement de réconciliation, la confession. Et le deuxième, c'est la communion. Et surtout, ne jamais s'approcher de la communion, ne jamais communier si notre cœur n'est pas prêt. Si nous ne sommes pas allés nous confesser. Voilà un petit peu les conseils que donne Don Bosco. Donc, il n'y a rien de compliqué et je crois que c'est intemporel. Il donnerait les mêmes conseils aux jeunes aujourd'hui. Donc, si on doit partir, nous, avec quelque chose, en tant qu'éducateur, c'est de veiller à faire en sorte que nos enfants, il faut faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire, au moment où on prie, au moment où on joue, au moment où on travaille. Et nous, en tant que parents, on doit avoir cette même exigence sur nous-mêmes, en tant qu'éducateurs. Quand on est avec les enfants, quand on est là pour eux, il n'y a rien qui doit être plus important qu'eux.
Il y a
Je
cette...
ne sais pas si on a encore un peu de temps.
Oui, nous avons encore 4 bonnes minutes, Geoffrey Laurent.
4 bonnes minutes. J'aime bien raconter cette anecdote pour montrer le il faut faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Un jour, Don Bosco est assez vieux et il avait pour habitude, quand il était jeune, de jouer avec les enfants, de jouer au ballon, de jouer, voilà, de jouer avec eux, d'être vraiment présent avec eux. Et puis, quand il vieillit, il a un peu moins cette énergie pour courir après la balle. Et donc, il y a des enfants qui sont en train de jouer au ballon et Don Bosco est là pour les regarder. Il a quand même son doux regard de père qui est posé sur eux et qui leur appartient pendant tout ce temps du jeu, même s'il ne peut pas courir avec eux. Et à ce moment-là, il y a un grand donateur qui vient et puis il arrive avec un peu d'avance. Et donc, il fait dire aux personnes qui étaient là, ben, si vous pouvez aller dire à Don Bosco que nous sommes là, mais genre, il a un gros chèque. Alors, je ne sais plus le montant, mais peut-être que ça vaut 1 million d'euros aujourd'hui. J'en sais rien. Mais un gros chèque. Et Don Bosco sait qu'il doit arriver, mais c'est pas encore l'heure. Et Don Bosco le voit et il reste présent avec ces jeunes jusqu'à la fin du jeu. Et ce monsieur, il poireaute pendant peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et donc, il fait le tour de la maison en disant, mais quand même, allez dire à Don Bosco que je suis là, c'est pas possible. Et Don Bosco, en arrivant, en voyant ce gentil monsieur qui venait quand même lui faire un beau cadeau pour ces jeunes, il lui serre la main et lui dit, ah, vous voyez, ici, le plus important, c'est eux. Et je pense que ça, c'est vraiment la première chose que nous, on doit se dire en tant que parents, en tant qu'éducateurs, quand on est avec eux, quand on est là pour leur montrer tout l'amour que Dieu a pour eux, il n'y a rien d'autre qui doit être plus important, même pas 1 million d'euros.
Eh bien, Geoffrey Laurent, c'est des mots avec lesquels nous avons envie de conclure cette émission. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est un livre qui se lit rapidement, car c'est un livre que vous n'avez pas voulu épais. C'est un livre qui fait à peine plus de 100 pages, publié aux
Tout à fait.
éditions Yeshua, que nous avons reçu plusieurs fois, que nous saluons, les éditions Yeshua. Moi, Don Bosco, Geoffrey Laurent. Pour revenir un petit peu, alors. Peut-être une dernière parole sur les patronages, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça en est pour vous?
Alors moi, cette année, j'ai eu la joie de rejoindre une belle équipe juste après notre Tour de France des patronages, une équipe dans une association qui s'appelle Esprit de patronage
Esprit de patronage.
et qui a pour vocation de se mettre au service de toutes les paroisses qui veulent lancer leur projet de patronage. Et cette association les accompagne gratuitement. Cette association vit de Providence, elle aussi. Et elle les accompagne gratuitement pour les aider, voilà, à accueillir tous ces jeunes que le Seigneur veut qu'on accueille. Et voilà, et on prie encore un petit peu pour trouver, on espère, une nouvelle famille qui partira à nouveau sur les routes pour faire le tour de France des patronages. Mais ça sera peut-être le sujet
D'une prochaine,
d'une autre
d'une autre
émission
émission, oui.
avec les responsables d'Esprit de patronage, voilà,
Oui.
qui prient pour ça et qui, j'en suis sûr, trouveront les belles personnes pour poursuivre cette mission qui a vraiment été pour nous un moment extraordinaire.
Oui.
Et avoir Don Bosco avec nous chaque jour, c'est un vrai cadeau du ciel.
Eh bien, qu'il continue à vous accompagner, Saint Jean Bosco. Donc, esprit de patronage pour ceux qui veulent y voir d'un peu plus près, ou bien cette revue L'Épervier, aussi consacrée au patronage. Mais là, nous vous recevions, Geoffrey Laurent, pour votre livre, Moi, Don Bosco, publié aux éditions Yeshua. C'est toujours heureux de vous entendre sur les ondes de Radio Maria. Merci beaucoup, Geoffrey Laurent.
Un grand merci et à très vite.
Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité des livres. Nous recevions Geoffrey Laurent pour son livre Moi, Don Bosco, publié aux éditions Yeshua. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.